Dans notre précédente causerie, nous avons montré, dans le cadre de notre projet Religion et politique en Quercy au XIXe et XXe siècle, comment sous la Révolution, les rapports entre les deux, religion et politique, presque idylliques au départ, ont tourné au divorce, puis à un affrontement sans merci qui peut se résumer en deux mots, déchristianisation officielle. C'est-à-dire la volonté d'extirper de la société toute référence ou pratique chrétienne, quitte même à les remplacer par des cultes nouveaux, nous l'avons vu, le culte de la raison ou le culte de l'être suprême. D'ailleurs avec peu de succès populaire. Il y a eu d'ailleurs des réactions de ceux qui étaient attachés à la religion ancestrale, sans que cela remette en question d'ailleurs la politique officielle. Une de ces réactions, bien connue, est celle qui se produisait à Cambuurat, près de Figeac, contre le représentant de l'État qui était chargé de la déchristianisation. C'était ce qu'on appelait un chargé, une mission de la Convention, c'est-à-dire de l'Assemblée qui était à Paris. Il s'appelait Beau, B-O, accent circonflexe. Et le 24 mars 1794, la population des villages avoisinants attaqua la voiture et le cortège de ce représentant en mission, qui avait le plein pouvoir en Quercy à ce moment-là. On tira des coups de feu dans la volonté de l'éliminer, parce qu'on lui reprochait d'avoir abattu des clochers, d'avoir fait tomber des croix au carrefour des chemins. Il était particulièrement excité dans ce domaine-là. Il en réchappa et cela déclencha une vengeance officielle. Trois personnes furent guillotinées à Figeac. Ainsi se termine cet épisode de la terreur, et avec la disparition de Robespierre arrive une phase nouvelle dans les rapports entre politique et religion. C'est une relative libéralisation. C'est la fin de ces cultes officiels. C'est la fin de la persécution active. Les églises peuvent se réouvrir. Les prêtres sont libérés de ces prêtres qui avaient refusé de prêter le serment à la Constitution et qui étaient incarcérés dans diverses prisons du département. Il y a eu aussi des manifestations inverses contre la Révolution. Ces prêtres libérés, ces fidèles désormais autorisés, se sont livrés parfois à des manifestations hostiles, par exemple abattre les arbres de la liberté qui avaient été plantés au début de la Révolution, avec des cérémonies en l'honneur du roi qui avait été guillotiné, et réclamé parfaitement le retour de la monarchie. Mais cette libéralisation connaissait parfois des retours inverses, des retours d'anti-religion, puisque un prêtre a été guillotiné à Cahors en 1794 encore. Il faut attendre l'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir, pour que ce rapport entre politique et religion s'assoie sur de nouvelles bases. Il faut souligner d'abord que Bonaparte, en lui-même, est fort peu religieux. Mais sa volonté était de tirer un trait final sur 10 ans de révolution et de réconcilier les Français. Donc il y a une volonté d'apaisement et il est convaincu intimement que le peuple, dans son énorme majorité, reste attaché à la religion traditionnelle. C'est un calcul politique, bien entendu, pour asseoir autour de sa personne le plus de Français possible. Il y a un calcul qui, évidemment, n'est pas très, très glorieux. C'était celui de sa conviction qu'il fallait une religion pour le peuple, pour le maintenir dans des limites nécessaires à la bonne marche de la société. Il y avait même cette idée, que nous jugeons évidemment avec beaucoup de sévérité aujourd'hui, que finalement le catholicisme était bien commode, parce que on pouvait être malheureux sur terre sur le moment, mais de toute manière le bonheur était promis dans le ciel, et par conséquent cela pouvait entraîner une certaine résignation. Bref, tout cela a guidé l'action de Napoléon Bonaparte, c'est sûr. Comme il était soucieux d'efficacité, il a décidé de traiter avec le pape, ce que n'avaient pas fait les premiers révolutionnaires qui avaient voulu chambouler complètement l'organisation de l'Église de France sans en référer à la tradition et au pape. Il était persuadé en effet, et il n'avait pas tort, que si on voulait véritablement ramener la paix entre les Français, du point de vue religieux, puisque les Français sont catholiques, dans leur énorme majorité, il fallait traiter avec le chef de l'Église catholique, c'est-à-dire avec le pape de Rome. Et cette volonté de traiter avec le pape a abouti au Concordat de 1801. On appelle le Concordat traditionnellement un traité entre le pouvoir civil et la papauté. Tout au long de son histoire, la France avait connu toute une série de concordats, des derniers ayant été le concordat de Bologne, vers 1520, œuvre de François Ier, et qui finalement avait régi les rapports de l'Église et de l'État pendant tout l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution. Ce concordat a été âprement négocié par l'envoyé du pape, le cardinal Consalvi, et par le propre frère de Napoléon, premier consul à l'époque. Ce concordat abolit le schisme, c'est-à-dire cette division de l'Église du royaume, désormais république, qui avait vu une séparation, c'est cela que ça veut dire, schisme, une séparation entre l'Église des prêtres réfractaires, ceux qui avaient refusé de signer le serment à la Constitution, qui avaient refusé de signer le serment de haine à la royauté, et de l'autre côté, les prêtres constitutionnels qui avaient accepté, grosso modo, le nouveau régime. Donc, c'est la réunification du clergé, et par conséquent, la réunification du culte, est désormais à la tête du département, c'est-à-dire du diocèse, puisqu'il y a un évêque par département à partir de ce moment-là. Cela signifie que l'on va changer la tête du diocèse. L'évêque constitutionnel, Monseigneur Danglars, doit démissionner Et de la même manière, celui qui était à la tête de l'église réfractaire en Quercy a dû s'effacer, et c'est un nouvel évêque qui a été nommé avec un accord entre le pouvoir et le pape, et cela dans tous les départements, chargé de refaire l'unité. C'était parfois très difficile, mais nous verrons comment on y est arrivé. Après ce concordat, nous savons que l'Empire a été proclamé, le premier Empire qui succède au Consulat. Désormais, Napoléon Bonaparte est empereur. Il a été sacré à Notre-Dame par le pape lui-même. Béni par le pape, il ne s'agit pas du tout d'un sacre comme était le sacre des rois de France à Reims, bien entendu. Napoléon Bonaparte ne l'aurait pas toléré. C'est lui qui se couronne pratiquement, le pape est là en spectateur. Nous avons un tableau célèbre de David qui nous montre cette cérémonie. Mais ce qui compte, c'est que les rapports entre politique et religion sont désormais tout à fait apaisés. Il faudra attendre la fin de l'Empire, c'est-à-dire les années 1813-1814, pour revoir des tensions entre la religion et le pouvoir politique, au moment où, en effet, Napoléon est en conflit direct avec le pape, qui est enlevé de Rome et déporté en France en résidence forcée à Fontainebleau. Mais jusque-là, à la satisfaction générale, les tensions sont apaisées et les Français sont très reconnaissants à l'empereur d'avoir rétabli le culte. Dans ces conditions, nous avons effectivement à définir un peu plus en détail ce qui se passe sous le Premier Empire. L'évêque nouveau est un personnage très intéressant, il est nommé en 1801. C'est Guillaume Balthazar, cousin de Grainville, qui a la lourde tâche, nous l'avons dit, de rebâtir le diocèse, de pacifier les esprits. On lui donne en même temps, d'ailleurs, la charge du diocèse de Rodez. C'est ce qu'on appelle un évêque concordataire. C'est un personnage officiel. Religion et politique dont sont confondues en sa personne. L'évêque est nommé baron d'Empire. On lui donne la Légion d'honneur. Il participe aux cérémonies publiques, civiles. On a même créé une fête de l'empereur purement imaginaire, la Saint-Napoléon, le 15 août, où on célèbre un Saint-Napoléon qui est tout à fait douteux. Des prières publiques pour l'empereur. On chantait avant 89 « Salvum fac regem », on chante désormais « Salvum fac imperatorem ». Donc pendant presque une quinzaine d'années, d'excellents rapports entre religion et politique. Mais quand l'Empire s'écroule en 1814, après les désastres de la campagne de Russie, puis de la campagne de France. La France voit le retour des Bourbons, c'est-à-dire le retour des frères de Louis XVI qui a été guillotiné, deux frères qui étaient partis en émigration, le comte de Provence, qui est le second, qui prend le titre de Louis XVIII, puisque le fils de Louis XVI est mort au Temple, dans sa prison, un des épisodes les plus sinistres et les plus lamentables de la Révolution, mort de mauvais traitements certainement, dans cette prison du Temple, il aurait été Louis XVII. Et après lui, ce sera le troisième frère, après la mort de Louis XVIII, en 1824, ce sera Charles X, le comte d'Artois. Alors sous ces deux rois, il n'y a pas de remise en cause du concordat, mais il y a eu, c'est certain, des moments difficiles pour l'évêque. À la première restauration, en 1814, après l'abdication de l'empereur, le diocèse de Cahors, le 31 janvier, voit le passage du pape, le pape Pie VII, qui passe à Cahors. Sa captivité à Fontainebleau a pris fin, évidemment, avec la chute de l'Empire, et il repart vers Rome. Il arrive à Cahors, la jeunesse l'attendait aux limites du département, les chevaux ont été décollés et les jeunes gens s'attellent à sa voiture et l'amènent à Cahors, où il séjourne à l'évêché, où il est reçu à l'évêché. Il aurait séjourné dans un hôtel qui a aujourd'hui disparu et qui se situait près de notre boulevard Gambetta. Donc l'évêque reçoit sa sainteté qui ne fait que traverser le département pour gagner Rome, mais ça a été un grand jour évidemment pour le diocèse de Cahors. L'évêque, qui avait servi le Premier Empire, se rallie tout naturellement à Louis XVIII sans aucun problème. Monseigneur de Grinville avait un tempérament légaliste, par conséquent, il ne discutait en rien ce changement de régime. Mais, nous le savons, l'empereur est revenu. Il a débarqué en Provence, il a repris le pouvoir pour cet épisode épouvantable finalement qu'on appelle les 100 jours, où à nouveau il a fallu se battre, ça a coûté de nouveau 100 000 soldats à la France, ça n'a duré que 3 mois. Quand l'empereur est revenu, dont Monseigneur de Grinville l'a accueilli dignement comme il fallait, mais quand il a été à nouveau chassé et que les Bourbons reviennent, Monseigneur de Grinville déploie le même zèle et se réjouit publiquement en chair du retour des rois légitimes. Cela lui a valu bien des moqueries, parce que on voit cette volte-face à laquelle il était contraint, mais pour lui, ça n'a pas posé de problème, et il a terminé son mandat, son épiscopat, en 1828 seulement. Il est mort dans son diocèse à 83 ans. Son successeur s'appelle Joseph Paul Dopoul. Il devient évêque à 64 ans, jusqu'en 1841. C'est un personnage très différent du précédent. C'est un aristocrate d'une vieille famille occitane. il avait émigré, il était donc, à la différence de son prédécesseur, très marqué par le royalisme. Et au retour de l'émigration, il avait été aumônier de la duchesse d'Angoulême. Il a, tant bien que mal, continué à administrer son diocèse en accord avec le pouvoir politique. Surtout avec Charles X, le dernier roi, qui était beaucoup plus favorable à la religion et à ses manifestations que Louis XVIII, son frère. C'est l'époque d'un soutien ostentatoire de la religion au régime contre les libéraux qui pouvaient aspirer à autre chose. C'est l'époque où dans le diocèse se développent des missions, c'est-à-dire de grandes manifestations qui avaient pour cadre une paroisse qui était littéralement investie pendant 15 jours ou 3 semaines par une équipe de prêtres, les missionnaires, qui organisaient des cérémonies pénitentielles, qui organisaient des processions, des manifestations extrêmement spectaculaires pour terminer par des confessions innombrables et en général aussi l'érection d'une croix de mission sur les places ou sur les boulevards ou les quais de nos villes. Donc par conséquent, jamais il n'y eut un accord aussi grand entre le régime et la religion. Ce qui finalement était très dangereux parce que à trop soutenir un régime politique, il est certain qu'il y a un risque considérable. Quand le régime politique se modifie, il y a évidemment le retour de bâton, c'est-à-dire un changement d'attitude vis-à-vis de l'Église à qui on reproche d'avoir trop soutenu un régime politique. C'est ce qui s'est passé, effectivement, avec la révolution de 1830. La révolution de juillet, comme on l'a appelée, chasse la dynastie des Bourbons et remplace leur règne par un autre roi, mais issu d'une branche collatérale, la maison d'Orléans, Louis-Philippe Ier, qui est proclamé roi des Français, alors que ses prédécesseurs s'intitulaient roi de France. La nuance est importante, elle veut signifier que Louis-Philippe Ier a été appelé par la volonté des Français, et par conséquent, est beaucoup plus légitime que les précédents qui avaient été amenés dans ce qu'on disait les fourgons de l'étranger alors que la France était occupée au moment de la chute de l'Empire.